Antonio Medina.
Rafael Moya.
Les noms des victimes lus par des élèves de l'école locale qui ont déposé une rose pour chaque victime dont le nom est désormais inscrit sur cette nouvelle plaque installée entre des poteaux d'origine du mur du camp de concentration de Hradišťko. Des noms étrangers, en majorité français et espagnols, ceux dont les nazis ne voulaient laisser aucune trace.
Je suis très ému d'être parmi vous aujourd'hui devant ce nouveau monument où tout est écrit.
Attaché de défense à l'ambassade de France, le colonel Stéphane Kaiser était parmi les intervenants lors de la cérémonie.
Tous ces prisonniers qui ont été massacrés par les nazis le 9, le 10 et le 11 avril 1945. 156 Français sont morts ici. Nous sommes bien ici tous et certains ont fait beaucoup de kilomètres pour nous rejoindre dans ce petit village pour nous souvenir de ce qui s'est passé ici et ne pas oublier le sacrifice qu'ils ont fait.
Pour un bon nombre de ces victimes de la barbarie nazie, notamment les victimes espagnoles, le sort de leurs restes, de leurs cendres, est resté ignoré pendant plusieurs décennies.
Je suis Frédéric Martin et je suis le petit-fils de Rafael Moya.
Dans quelle mesure c'est important d'être ici aujourd'hui ?
Pour plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est évidemment de commémorer la mémoire de personnes qu'on croyait disparues à jamais et qui ont malgré tout su parvenir jusqu'à nous grâce à l'héroïsme de quelques-uns, et notamment des Franciszek Suchy, père et fils, qui ont su conserver la mémoire de ces déportés espagnols. C'est une fois de plus la preuve que malgré la barbarie et la tyrannie, cette mémoire historique peut se transmettre. Alors il faut la bonne volonté de quelques personnes qui se trouvent, malgré tout, dans le genre humain. C'est pour ça qu'il y a malgré tout un message d'espoir dans ce que je dis et dans ce que je pense. Mais donc grâce à ces quelques personnes, effectivement, on a pu contrecarrer le mal. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre ancêtre ?
Oui, Rafael Moya, c'est quelqu'un qui a passé malheureusement trop peu de temps sur cette terre, qui a eu une destinée absolument incroyable, émigré des îles Baléares, arrivé en France, marié, et puis une fois devenu papa, déporté à Flossenbürg et puis à Hradišťko, donc c'est un destin malheureusement assez commun au XXe siècle.
Quand est-ce que vous avez appris, vous, cette histoire ? Parce qu'elle est très méconnue.
Alors l'histoire des cendres qui ont été préservées, ça je l'ai su que très récemment, c'est-à-dire il y a 3 ans. C'est à la suite d'un coup de fil d'Unai Egoya, qui est l'un des représentants de ce groupe de chercheurs espagnols qui a su retrouver la trace en fait de la mémoire de mon grand-père. Et donc je l'ai appris très récemment. Ouais.
Qu'est-ce que c'est ici, à nos pieds ? C'est les poteaux où se trouvent toutes les limitations des camps de concentration de Hradišťko. Moi, je suis un aérien, je suis prof dans une école basque et je cherchais la trace des déportés espagnols, mais aussi je me suis trouvé dans les histoires individuelles des Françaises aussi.
Tout le monde dit ici et tous les connaisseurs du sujet que sans vous, il n'y aurait pas la cérémonie d'aujourd'hui, que sans vous, il n'y aurait pas non plus le film. Popel, Cendre, c'est votre mérite.
Je suis un peu émouvant, mais mes paroles sont pour les familles, c'est pour la rencontre des descendants des déportés espagnols et français. Je voudrais trouver d'ailleurs pour faire une espèce de réseau qui devient une force humaine. Qui je crois qu'avec cette force, on peut arriver à faire de grandes choses. Et comment il fait autre pour la guerre, nous on fait pour la paix. Et ça, c'est mon rêve.
C'est un peu par hasard que vous avez fait ces découvertes.
Oui, oui, tout à fait. J'ai lu un livre de Javier Cercas où ça raconte sur une histoire de Messons qui a pris les numéros d'un déporté. Et c'est lui, les gars qui a pris ça, c'est une fausse déportée.
L'usurpateur.
L'usurpateur de Enrique Moner. Et c'est pour ça que je voudrais trouver la trace des vrais déportés. Et c'est pour ça que j'ai trouvé la famille qui habite à Perpignan. Et grâce à ça, on a trouvé aussi la seule photo qui existe des vrais déportés, Enrique Moner Castel.
C'est le hasard qui a fait découvrir... pas seulement aux Espagnols, pas seulement aux Français, mais aussi aux Tchèques. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui habitent même ici, à côté d'Hradiško, qui ignoraient l'existence de ce camp.
Tout à fait, parce que derrière tout le drame de cette déporté, pas mal de Français sont tués ici, et derrière tout ça, il y a une histoire incroyable, ils ont amené les corps au crématorium de Praga. Et là-bas, la Gestapo, elle a dit pertinemment à l'administrateur du camp de concentration de Praga que les corps de tous les déportés, ils doivent jeter au compost du cimetière à côté du crématoire. Et étonnamment, l'administrateur de ce crématoire, il n'a pas le fait, il n'a pas fait.
Francisek Suchy,
il a caché les cendres. Au début, des résistants tchèques qui sont tués dans la prison de Pankrac en Tchéquie, et après, il a réussi à cacher les cendres individuellement dans les urnes individuelles et numérotées pour empêcher à les Gestapo d'obliger cette mémoire.
Alors, ce qui veut dire qu'il a caché une liste qui correspondait numéro, nom.
Tout à fait. Les Allemands, ils doivent donner les corps avec des papiers légaux, parce que c'était une infrastructure civile de la ville de Praga. Alors l'administrateur, il doit suivre aussi la légalité. Alors il a fait comme ça. Et en cachette, il a écrit les noms des déportés, les numéros aussi. Et comme ça, il a réussi à les incinérer individuellement, mettre l'identification précise et cacher dans des listes clandestines qui a fait aussi écrire à nouveau par son fils. Et comme ça, cette liste, ils sont gardés chez lui au début.
Ce qui était évidemment très très risqué.
Ah oui, parce qu'ils ne peuvent pas mis dans les livres officiels des crématoires, ils ne peuvent pas écrire les noms. Alors il a réussi à faire on va dire, un parallèle des listes, un parallèle avec des déportés de Hradiško et d'autres camps aussi, pas mal d'eux. Et comme ça, il a fait cette liste clandestine qui a montré à la fin de la guerre à l'œil français.
Les Français avaient récupéré les dépouilles, les restes des victimes, pas les Espagnols.
Non, parce que la plupart des déportés survivants ou rescapés, ils sont des Français qui sont arrivés à Praga. Alors, dans l'ambassade de France, ils ont dit peut-être les cendres, les corps, ils sont incinérés à Praga. On le sait parce que les populations tchèques à Hradiško, ils l'ont dit. Alors, ils sont allés là-bas et ils ont demandé à l'administrateur du crématoire de Praga et lui, il a dit oui. Moi, j'ai les répertoriés en cachette et ils sont là. La mission répatriation française, il a fait 3 missions pour vérifier la liste clandestine de Francisek Suchy et leur propre liste française. Et ils ont amené à peu près environ de 100 urnes vers la France. Et certains, ils sont donnés à les familles. Notamment, on a ici les familles de Jean-François Neissot, qui a récupéré la bœuf, il a récupéré les cendres de son mari. Mais par contre, les Espagnols, ils ne savaient pas. Et alors, sont des apatrides. On sait qu'il y a à peu près 2000 déportés en Prague en mai de 1945, mais eux, ils savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire et ils sont pas répatriés. Les Espagnols déportés, rescapés ou survivants, et ils peuvent pas aller en Espagne parce qu'il y a de la dictature. Alors, les cendres, les urnes des Espagnols, ils sont restés en Prague jusqu'à ce moment-là.
Vous parliez les victimes de massacres à la mitraillette ici, tirées comme des lapins par les SS, mais il y a aussi des actes de cruauté terribles. Vous me parliez hors micro de capot qui tuait à la seringue.
Oui, il a un capot, un Altester qui travaille dans l'infirmerie. Il a eu la commande de son commandant del camp de concentration et il a décidé de entre guillemets nettoyer l'infirmerie qui était pleine de blessés et aussi de malades. Et alors les jours après les fusillades, il a tué beaucoup de déportés avec une seringue de gasoil et eau oxygénée qui fait la mort atroce dans 20 minutes.
Je m'appelle Eliška Svobodová. Moi, je vivais dans ce village, donc on a pris les histoires à l'école. Et aussi, quand on fait une promenade, on peut lire les histoires sur le tableau.
Sur le panneau qu'on voit ici, justement.
Oui.
Parce que sinon, quand on regarde pas bien, on voit pas. Ici, il y a le mur, les anciens poteaux du camp. Et en fait, ici, c'est des moutons, c'est une ferme. Donc, on remarque pas grand-chose.
Non, ce sont les moutons d'une famille qui vivait là-bas. Donc, ce sont leurs moutons. Mais on peut voir aussi les vieilles maisons qui font partie de camps de concentration.
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est important pour les gens du village ou c'est une histoire qui tend à disparaître?
Oui, je pense que c'est l'important pour les gens de ce village parce que chaque année, on a fait un acte de commémoration le 8e mai. Donc, où participent les enfants de l'école. Donc, on rappelle toujours cette histoire ici.
Il y a aussi des histoires de Tchèques qui travaillent ici et qui ont aidé les déportés. C'est aussi connu, ça?
Oui, oui. Il y a beaucoup de textes ou des petits livres où il parle qu'une femme aidait aux prisonniers dans le train où il attendait 3 jours. Donc, on connaît cette histoire.
Amor mio l'alba, à l'alba, l'alba, à l'alba, à l'alba, à l'alba, l'alba, à l'alba, à l'alba.
Emita Diaz de Bégar. Je suis fille de républicains espagnols exilés qui ont eu la chance de ne pas arriver dans les camps nazis, mais qui n'ont jamais pu revenir en Espagne et qui donc sont restés en France. Donc moi, je suis née en France. On est au camp de Ravrichko, le camp nazi, qui était soi-disant un camp de travail, mais qui en fait a fini par achever tous les prisonniers pratiquement dans le fameux train de la mort. Et avant, sur le chemin qui les a menés à faire la tranchée anti-char.
Où ils ont été mitraillés.
Ils ont été mitraillés quand ils n'avançaient pas assez vite. Enfin bon, donc ça c'était le camp. Bon, il reste plus que la cantine. Il y a un bâtiment qui est c'est celui-là qui est devenu une maison particulière, mais qui était initialement dans le camp la cantine.
Et on est sur la route.
Voilà, une route pavée qui a été faite par les républicains espagnols, hein, donc voilà. Et il y a 3 ans, quand on a accompagné les familles ici pour retrouver leurs ascendants, la municipalité de Ravrisco a récupéré 8 de ces pavés et a fait dessus graver une plaque au nom des 8 familles que nous accompagnons, avec les noms de chacun d'entre eux. Et donc les familles sont reparties avec un pavé en souvenir de leurs parents qui étaient décédés ici.
Alors des républicains espagnols et des Français aussi, il y a beaucoup de Français ?
Oui, il y a beaucoup de Français, des Espagnols. Il y a d'autres nationalités aussi, hein. Il y a des Tchèques. Mais c'était tous des combattants de la liberté. C'était tous des antifascistes. C'était tous ceux qui se sont battus pour que nous puissions, nous, vivre dans une démocratie.
C'était important pour vous, la cérémonie d'aujourd'hui ?
Hyper importante, parce que effectivement le monument qui est aujourd'hui, qui existait déjà il y a 3 ans, hein, ce qu'on appelle le mémorial, a été, on y a aujourd'hui inscrit les noms, donc c'est plus des anonymes, c'est des personnes que l'on connaît, qui ont une identité. C'est très très important. Pour les familles et pour toute l'humanité et pour la population tchèque, parce que les Tchèques ont subi le traumatisme du fascisme comme les victimes du camp.
Et c'est vous qui êtes venu avec d'autres planter un arbre. Comment vous pouvez nous dire deux mots sur cet arbre ?
Et oui, c'est un arbre qui arrive de Guernica. On l'a fait voyager, les amis basques l'ont fait voyager il y a 3 ans. Il était tout petit, hein, il faisait 20 cm. Aujourd'hui, il mesure 2 mètres, 3 mètres de haut. Il a bien pris racine et c'est effectivement moi qui l'ai planté il y a 3 ans. Donc je suis hyper, hyper heureuse de voir que cet arbre a pris racine. Et c'est le symbole, l'arbre de Guernica. C'est le symbole de la liberté, c'est le symbole de... Malgré les bombes, la vie renaît des cendres. Il y a pu y tomber des milliards de bombes. Ça n'a pas empêché la vie de renaître et de continuer. Et cet arbre qui a survécu représente cette symbolique.
Et je crois que cet arbre de Guernica, très symbolique pour les Basques, va être planté à Prague pour rendre hommage au directeur du crématorium.
Exactement. C'est un Tchèque qui a pris des risques fous.
František Suchý.
C'est ça, exactement. Des risques fous, parce qu'il aurait pu être abattu, il aurait pu y laisser sa vie, et qui pourtant l'a fait.
Merci beaucoup. Je vais écouter les chants. Je crois qu'ils chantent en basque.
Eh oui.
Merci.
Adora sensai tu.